De faire des dégâts, car des loups, des carnassiers, il y en a dans ce peloton. Alors il y aura peut-être des échappés qui arriveront avec un peu d'avance sur la meute, sur ces routes du Finistère. On devrait avoir aujourd'hui une course de mouvement. Les punchers, en tout cas, ont pris rendez-vous avec ce final, la fosse aux loups. Alors on ne pense pas tant au Slovène Tadej Pogacar, vainqueur du dernier Tour de France, ou à son compatriote Primoz Roglic. Hein. Eux, ils visent surtout la victoire finale à Paris. Mais pour le premier bouquet, premier maillot jaune, ce soir, ils sont trois à hurler leur ambition. Julian Alaphilippe, le français, maillot arc-en-ciel de champion du monde sur le dos. Wout van Aert, le belge. Et Mathieu van der Poel, le néerlandais.
Radio G. 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner des témoignages.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible.
Je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Aujourd'hui, Miloud Rarafi. Il a publié en avril 2014 un recueil de poésie Écho lointain. Miloud Rarafi est né à Berkane au Maroc. Il est poète, romancier et traducteur et il réside en France depuis 1990. Son premier recueil, Brûlure de l'amour, voit le jour en 2002. Le second, Je la mâche comme un chewing-gum noir, en 2009. En 2011, il a publié au Liban son premier roman, Cascade. Il est le traducteur en français de la poésie d'Ahman al-Shahawi, égyptien, intitulée Une seule porte et des demeures, en 2013, et également traducteur de Un ciel à mon nom à apparaître en 2014.
أنا والرمل أبصر في كف امرأة شطآن بحار نسجتها أمواج الليل أبصر في الشطآن امرأة أخرى تكبر عيناها في رحم الأرض وهذا الرمل أصاب الكف ففاض الماء لكن امرأة أخرى تخرج من أسفار الجرح ومن شاقات الخيل كبرت عيناها في عيني فغيض الماء ولم يهرب من بين أصابعي الرمل. Le sable et moi. Je vois dans la pomme d'une femme des rives de mer tissées par les vagues nocturnes. Je vois sur les rives une autre femme dont le regard grandit dans la matrice de la terre. Le sable a atteint la main et l'eau en a débordé. Mais une autre femme surgit des voyages de la blessure et des râles des chevaux. Ses yeux ont grandi dans les miens. L'eau disparaît alors, mais le sable n'a point fui d'entre mes doigts.
dimanche dernier, quand je t'ai croisé au marché de la poésie à Rochefort, tu m'as parlé d'un poème pour Cheikha Remiti, la grande chanteuse algérienne. Pourrais-tu nous le lire ?
غزالها والنوار دندني دندني ديني تلك أنت وتلك آخر قطرة في الأغاني التي بالحنين تمدني وتردني من منفاي ملقا على الأشواق مثلك سالكا بعض الطريق وبعضه ألغيه هل وهران أم بركان أم أحفير بينهما تنصب الإيقاع في بربيس ليل السبت كي تطويه تحت ذراعها سرا بالنهار وتشتهيه أم شذا العرعار يحملني إليك وحمرة الحناء في البندير قبل اليدين وصرخة القصب الحزين ورجع صدى من بعيد كأن به صبايا وبعض متاع جدي كم بكيت على الرصيف رصيف مقهى يدس به الرجال أنينهم في الأغنيات ورقصة الكتفين قبل البكاء على الرصيف مثلي آخر الليل كم شاهدت من قدم تثير النقع حولك بعضها نخب هواء وبعضها ترمي النعال وتكتفي بشقوقها حتى يستقيم الليل والميزان والذكرى الأليمة والبلاد وما تبقى من راتب الشهر الهزيل هل أطربت ما يكفي لينسى الوافدون إلى الحياة نصيبهم من الألم الشديد وينسى الوافدون إلى المنافي قيئهم في العباب وآخرون عناق الأحبة في المطار وفي الحقائب خلسة بعض ما يلغي الحدود توابل وتمائم الجدات كأك الأمهات الزعتر التبغ والأعشاب في غرفة كادت تضيق بنفسها في باريس كان جدي قبل العشاء وبعده يضع الأسطوانة في الجهاز ويختفي أثر الأحبة
Rose de gazelle. Dan, Dani, Dan, Dani, Daini. Je reconnais ta voix. Je reconnais la dernière note dans les chants qui me donnent de la nostalgie et m'arrache à mon exil, jeté sur les patients comme toi, poursuivant une partie de mon chemin et abandonnant une autre. Est-ce Oran, Berkan ou Ahfir, à mi-chemin entre les deux, qui irrigent le rythme à Barbès les samedis soirs pour le cacher sous le bras le jour et le désirer. Où est-ce le parfum de genièvre, le rouge du henné dans le bendir bien avant les mains, le triste cri de la flûte comme un écho lointain de mon enfance et quelques vieux effets personnels de mon grand-père qui m'emporte vers toi. Oh combien j'ai pleuré sur le trottoir d'un café où les hommes dissimulaient leurs gémissements dans les chants et la danse des épaules. Avant de pleurer sur le trottoir comme moi tard dans la nuit. Oh, combien j'ai vu de pieds soulever la poussière autour de toi. Certains n'étaient que pure illusion et d'autres se déchaussaient et se contentaient de leurs fissures pour que s'équilibre la nuit, le rythme, les souvenirs douloureux, le pays et le reste du salaire misérable. As-tu suffisamment chanté pour que les vivants oublient leur part de douleur intense ? Et les exilés leurs vomissements dans les vagues déchaînées et d'autres les embrassades des leurs dans les aéroports avec des valises cachant quelques affaires qui annulent les frontières. Épices, amulettes de grand-mère, gâteaux de la maman, du thym, du tabac et des plantes sèches. À Paris, dans une chambre qui ne suffisait pas à elle-même. Mon grand-père mettait dans le gramophone tous les soirs avant et après la prière un disque pour se remémorer les souvenirs des siens dans les tristes refrains. Il lisait dans ton chant bédouin le récit de sa vie et y trouvait toujours une trace, des youyou ou un mal de tête sous un turban. De quoi mesurer la distance qui le séparait de sa retraite. Dans la même chambre ou presque, je remémore à mon tour les souvenirs des miens par le biais de tes chants où trouvent largement leur place le disque, la cassette et le CD de ton dernier cri. Je vois la ville entière qui, trop étroite pour contenir tes pas et l'éloquence de tes souffles à ton âge finissant, annule de ses fêtes les huhou. À cet instant, quelque chose souffle majestueusement sur notre ville. C'est peut-être le parfum de la rose que tu as laissé seul dans les mains de ceux qui se rendaient à ta soirée. C'est peut-être ton bien-aimé qui vient soudainement de passer et disparaître, seul et tout de blanc vêtu. Ou c'est peut-être un écho de ta voix chantant dans le vide que tu laisses. Mon bien-aimé et moi fêtons seuls dans la montagne nos adieux. Rien entre vous et moi ne vient effacer le signe qui nous unit dans l'absence. Je vous ai aimé et ai bu à ma soif de la passion et de sentiments difficiles. J'ai chanté seulement ce qu'il fallait pour exister et pour que la nuit ne dure pas plus longtemps.
Ce recueil de poésie Écho lointain, c'est une écriture en arabe et une traduction de l'arabe en français par toi. Et je dirais que le français et l'arabe se rejoignent par les calligraphies de Najah, un peu comme des croisements. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ?
Nous avons, avec mon éditeur, choisi de mettre les textes des deux langues en vis-à-vis parce que il me semble que en poésie il n'y a pas de frontière entre les langues. Alors c'est une traduction certes, mais il y a aussi ce côté visuel où l'écriture arabe semble complètement, c'est le cas d'ailleurs, différente de l'écriture française. Le graphisme n'est pas le même. Donc il y a aussi un sens qui se dégage hein, de la forme des lettres, de la disposition des lettres sur le papier. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'insérer quelques calligraphies du calligraphe et poète Najah Jegan pour donner aussi un sens autre que celui qui se dégage dans la langue. Voilà. Le fait de mettre les textes en vis-à-vis veut dire aussi que ce soit écrit en français ou en arabe, ce n'est pas ça le plus important dans un poème, notamment pour celui qui lit. Hein, pour les lecteurs, quand ils regardent ça, s'il lit en arabe, il peut lire ça en arabe. S'il lit en français, il le lira en français. S'il lit les deux langues, il trouvera aussi son plaisir à lire les deux textes dans les deux langues, bien sûr.
Donc moi, je voudrais revenir au titre Écho lointain. Donc, parce que dans le recueil que je possède, tu m'as mis comme dédicace que ces échos te soient très proches. Et donc, j'aurais voulu que tu me parles de cette contradiction, donc ces différences ou similitudes, ou parce que les échos peuvent être proches puisqu'ils nous reviennent. Enfin, pourrais-tu nous en dire quelque chose ?
Oui, bien sûr. Alors, d'abord, ce recueil, c'est un ensemble de textes choisis. Ce n'est pas un recueil, il ne porte pas le titre d'un recueil que j'avais écrit en arabe et que j'ai traduit après, non. Ce sont un ensemble de textes tirés de deux recueils déjà publiés en arabe, plus des textes inédit. D'accord ? Et donc j'ai fait ce choix-là exprès, j'ai rassemblé quelques textes. Comme c'est une traduction, j'ai choisi des textes qui parleraient plus à un lecteur francophone. Pour le titre Écho lointain, il vient de ce que ces textes parfois dégagent en termes de souvenirs. Mais cela ne veut pas dire que ces textes appartiennent au passé, ni que ce qu'ils dégagent appartient au passé, non. C'est pour ça que c'est un peu une illusion de penser que ce sont vraiment lointains. Je ne crois pas. Ils sont toujours proches, très proches de moi en tout cas. Et j'espère que pour le lecteur, c'est pareil. Le titre dit que ce sont des échos lointains, mais je crois que quand on le lit, je l'espère en tout cas, que le lecteur s'y retrouve. Hein. Ce sont des textes qui peuvent parler au lecteur, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit son origine.
Poème que tu nous as lu tout à l'heure, il y a aussi des contrastes entre la lumière et la pénombre,
oui.
Le noir et le blanc, avec des mots comme le chocolat,
oui.
Qui peut être blanc, et le vin blanc. Beaucoup de couleurs, finalement.
Oui. Ce texte a une histoire, c'est-à-dire que je l'ai écrit dans un café parisien. Qui porte d'ailleurs le même nom. C'est un café, la Taverne de Cluny, c'est un café qui se trouve dans le quartier latin, à côté de la Sorbonne. Et bien ce texte, je l'ai écrit dans ce café, parce que j'étais là ce jour-là, et un peu par hasard, et puis je vois une scène d'embrassade, deux amoureux, et voilà, ça réveillait en moi d'autres souvenirs qui m'appartiennent. Voilà encore pourquoi j'appelle ça des échos lointains, mais je ne crois pas qu'ils soient aussi loin que ça, puisque j'en parle, puisque ça réveillait en moi tout un ensemble de souvenirs. Et dans cette scène, bien sûr, il y a beaucoup de réel, mais il y a beaucoup de fiction, d'imagination, et je crois que les couleurs donnent un sens à tout cela, à toute cette scène-là, oui, bien sûr.
À lire tes poèmes aussi, on dirait une écriture instantanée, du présent, avec des allusions à Internet, le téléphone portable.
Oui, c'est lié à une pratique poétique à laquelle je suis très attaché, c'est de considérer le poème comme en rapport permanent avec le quotidien. On n'écrit pas à partir de rien et on n'écrit pas sur rien. On écrit toujours sur quelque chose, et il y a beaucoup de choses dans notre vie quotidienne qui nous semblent complètement banales. Des petits détails de la vie quotidienne qui me semblent complètement banals, mais dans lesquels le poète trouve un sens, trouve des symboles, trouve des images, et à partir partir desquels il peut s'exprimer. Je dirais pas, il fait passer un message, c'est pas le rôle du poète, mais en tout cas ce sont des choses qui parlent au poète. Et donc c'est pour ça que tout ce qui nous entoure, y compris la technologie moderne, a un effet sur le poète. Et donc c'est pour ça que, oui, il y a Facebook, il y a Internet, il y a des petites choses de notre vie de tous les jours. Hein. Il y a le voyage, quand on est à la gare, on voit tout le monde partir, courir, traîner des valises. Ben, tenez, par exemple, là, je ne sais pas, enfin, au hasard comme ça, je prends ce recueil et je lis... Éloignez-vous des quais, ça c'est le titre d'un poème. Éloignez-vous des quais. Et dans ce poème, on lit ceci: même si tu revenais un jour, la voix monotone d'une femme annoncerait en gare: éloignez-vous des quais. C'est une expression, une annonce que l'on entend tous les jours. Mais moi j'entends autre chose dans ça, et puis je l'ai utilisé pour ça. D'ailleurs, ce sont des textes que j'ai fait, j'ai choisi de faire sur le voyage, et notamment sur la gare.
À propos de cette modernité, j'aimerais lire le très beau poème intitulé Like. J'avais rendez-vous avec elle sur Facebook. Elle n'est pas venue. J'ai cassé l'ordinateur. Il est entendu frapper à la porte.
Like. كان لي موعد معها على الفيسبوك ولم تأتي. كسرت الحاسوب وسمعتها تطرق الباب.
L'aiguille.
Il m'arrive bien des fois de laisser derrière moi au Café Populaire à Toulouse des poèmes n'ayant pas suffisamment bu de la mousse de mon verre, ni d'une mélodie occitane et de marcher tout léger comme une violette, si bien que la rue, l'asphalte, l'eau du fleuve, des noctambules ivres comme moi, les chansons de Nougaro, les saints, le bar, le filouchard, les prostituées de Matabio, mon ami Miguel, le tangérois castillan, le basilic Saint-Cernin, mon collègue facho chef de département, les touristes, Foucault, la police, ma bien-aimée allemande, Sibylle, Picasso, entre parenthèses la voiture, le pèlerinage à Compostelle, les films d'Utopia, le maire, le poète Serge Pey, et enfin mon domicile, le vomissement sur la serrure, et le monde entier passe à tous par l'œil de l'aiguille.
يسمي الإبرتي يحدث مرات أن أترك خلفي بالمقهى الشعبي بتولوزا قصائد لم تشرب ما يكفي من زبد الكأس ولا من لحن أوكسيتاني وأسير خفيفا مثل بنفسجة حتى وكأن الشارع والإسفلت وماء النهر وليليين سكارى مثلي وأغاني نوغارو والقديسين وبار الفيلوشار وعاهرة الماتابيو وصديقي ميغيل الطنجاوية القشتالية وكنيسة سان سيرنان وفوكو وزميلي الفاشية رئيس الشعبة والسائحة والبوليسة وعاشقة الألمانية سيبيلا وبيكاسو السيارة والحج إلى كومبوستيلا وأفلام الأوتوبيا والعمدة والشاعر سيرجبي وأخيرا بيتي والقيء على قفل الباب وهذا العالم أجمع كل في سم الإبرة.
Non, pas du tout la même lecture.
C'est, regarde, ça c'est un texte qui s'écrit, enfin, on n'a pas besoin d'enregistrer, mais il n'y a pas de virgule. S'il y a des virgules là. Quand on avait pensé à publier ce texte-là, on a beaucoup hésité pour la traduction en français, si on devait mettre les virgules ou pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de point. Le seul point, c'est celui du... C'est le point de la fin du texte, quoi. Et là, en arabe, il n'y a rien, parce que c'est un... Je l'ai voulu comme ça, c'est-à-dire qui arrive en un seul jet comme ça et dans une succession de noms.
Ça donne liberté pour la lecture. Encore liberté, on s'arrête quand on veut.
J'aime bien le fait qu'on n'ait pas lu le texte de la même manière.
C'est oui, une bonne aussi, chose. Mais bon, c'est une vrai, bonne je ne l'avais pas préparé ouais. aussi, mais j'avais bien aimé le
Moi, je le lis comme ça, sans pause, sans souffle.
Sans souffle.
Toi, tu l'as lu en respectant, en fait, puisque là, dans le texte en français, justement, j'ai mis des virgules. Il n'y en a pas du tout dans le texte en arabe, parce que c'est comme ça que je le lis.
C'est un peu un clin d'œil à ta vie à Toulouse.
Un peu, oui. Ben, encore une fois, le vécu revient. Ces textes est marqué par Toulouse, oui. Alors,
Serge Pey.
Oui.
Nougaro.
On disait tout à l'heure le quotidien, mais moi, je fais beaucoup attention à l'espace. Ces textes-là qui sont publiés dans d'autres recueils portent toujours en dessous le lieu où je les ai écrits, parce que je pense que ça joue, en tout cas dans ce que je fais, ça joue beaucoup. L'espace m'inspire beaucoup.
Et le vécu de l'étranger, de l'immigré aussi, je crois que tu peux en parler.
Voilà, il y a
une dissonance qui mérite d'être...
Oui, alors il y a des textes aussi qui parlent des conditions de l'immigration. On a vu quelques éléments de cela dans le texte de Cheikh Harimiti, de cette chanteuse algérienne qui nous a quitté en 2006 ou 2005, je ne me rappelle plus, et qui a beaucoup chanté pour les immigrés maghrébins en France.
Oh,
Une dissonance. Chaque fois que je la croise par hasard devant l'ascenseur, la voisine Marguerite montre sa joie et une dose de fierté et dit « C'est parfait, je n'ai rien entendu cette nuit ». Puis elle s'en va rapidement, me laissant seule à mes questions. Qu'est-ce donc que ma voisine n'a pas entendu la nuit ? Le son du téléviseur ? Une conversation téléphonique ? Une chanson de rail ? Le crissement du stylo ? Le bruit des aliments que je mâche, celui de ma posture allongée sur le canapé, ma respiration, le rythme d'un poème qui se brise, mes rêves, mes pulsations, ma migraine. C'est une chose bien étrange qu'une vieille dame s'étonne que chez moi, je mange, boive, marche, écoute de la musique, parle tout seul tant que je veux et ne dérange que ma propre personne. Qu'adviendrait-il si j'étais ce que je voudrais être là, maintenant ? Antipathique, violent, ne lisant pas de poésie, pissant dans l'ascenseur et criant de tout mon jeune âge à la face de la voisine Marguerite et brisant une côte au caniche de sa voisine Isabella. elle aussi est dérangée par le timbre de ma peau et de mon nom et de ma détermination à ne déranger personne.
نشاز في عثرة كل لقاء عند المصعد تبدي الجارة مارغاريت بشاشتها وركاما من فرح وتقول جميل جدا لم أسمع شيئا هذه الليلة ثم تغادر مسرعة وأنا أتساءل ماذا لم تسمع جارتي الليلة صوت التلفاز الرد على الهاتف أغنية الراي صرير القلم المضغ استرخاء فوق الكنبة أنفاسي وزن قصيد يتكسر أحلامي دقات القلب صداع الرأس غريب أمر عجوز تتعجب أني في بيتي آكل أشرب أمشي أسمع موسيقى وأكلم نفسي ما شئت ولا أزعج إلا نفسي ماذا لو كنت كما شئت الآن ثقيل الظل عنيفا لا أقرأ شعرا أتبول في المصعد أصرخ ملء شبابي في وجه الجارة مارغاريت وأكسر ضلعا للكلب القلطي لجارتها إيزابيلا هي أيضا يزعجها أن تعلوني السمرة لونا أو لقبا وأعاند ألا أزعج أحدا Regarde comme elle vole. Ma mère me dit « Répare-la ». Je l'emmenai chez le cordonnier. Il en recousit le cuir et frappa avec fierté un clou dans le talon et un autre dans la plante. Il la polissait en disant « Tu partiras et elle restera au plus haut de sa gloire. Tu ne risques rien si tu marches avec sur l'eau. » Et ce serait dommage de ne pas en être fier. Frappe le sol autant que tu veux avec, dans une danse gitane, ou soulève la poussière dans une danse de regada, et marche sur un carrelage ou sur des pierres. Elle ne se fatigue point. Regarde, je la tords comme je veux, et elle ne se casse point. Regarde comme elle vole, et il la lança vers le plafond. Tu sais, le secret est non dans le cuir, ni dans le talon en acier. Le secret est dans le pas, entre les artères de la terre et celles du pied. Le secret est dans ce que tu en fais. Il ne suffit pas de la chausser. Parfois, elle est fière que tu la portes et que tu marches sur des épines ou sur la braise pour que tu saches le secret de la rotation de la terre et celui du passage du cri vers d'autres horizons que la parole. Pose-la quelquefois près de ta tête. Tout près de ta tête autant que tu veux, autant que tu peux. Tu entendras tout le mal de la terre, les cris des assyriennes, l'asphalte brûlant, le souffle des morts et l'horreur de la nuit phosphorique. Alors, pose-la près de ta main et regarde, mon fils, comme elle vole. Regarde comme elle vole.
Quelques mots et un poème pour conclure.
Quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire quelques... Je te remercie, Houria, de m'avoir donné l'occasion de... pour lire ces poèmes et merci m'exprimer bien. Un peu sur la... Sur
c'est une idée de Najer.
Eh bien, merci à tous les deux. On va finir par lire ce poème sur, voilà encore, sur la valise. Tout à l'heure, tu vas prendre le train, n'est-ce pas? Bon.
Demain,
tu prendras le train. En tout cas, tu prendras le train.
Oui.
Donc, ça, c'est un poème pour toi. Lié. التذكرة لا تهم التذكرة بل قصيدتك التي على ظهرها. Billet de transport. Plus important que le billet, ton poème au verso.
Merci. L'émission était dédiée au poète marocain Miloud Rarafi et à son dernier recueil de poésie « Écho lointain » publié à L'Aile Édition en avril 2014. Merci à l'association Ouda Nantes pour l'accompagnement musical aux luttes et à Najer pour son solo. Vous avez pu également entendre la musique du groupe Joussour qui veut dire en arabe « passerelle » ou « le pont ». À la lecture, Miloud, Najer et Ouria.